Il y a quelques semaines de ça, en fait, on a un livreur qui est venu, qui nous a livré plein de matériel. Donc, merci aussi à tous ceux qui étaient là pour décharger. On a fait notre sport. Puis, par contre, on a pris un café ensemble, puis on a parlé un peu de la foi. Et il m'a dit, ah, mais du coup, vous n'êtes pas de ces chrétiens qui croient qu'il y a un Jésus qui est mort pour eux quand même. Après, il m'a dit, mais vous n'êtes pas de ceux qui croient qu'on peut connaître Dieu. Mais vous n'êtes pas de ces chrétiens qui pensent qu'ils peuvent être sauvés parce que quelqu'un aurait souffert pour eux. Moi, j'essaie de faire du mieux que je peux pour être bien et respecter les prières quotidiennes. Et c'est comme ça que je pense que bah, je pourrais être au paradis. Je me suis dit, ah, c'est pas très proche du christianisme qu'on essaye de vivre et qu'on a découvert ensemble dans la Bible. Et je me suis dit que bah, il y a des personnes autour de nous qui peuvent avoir des préjugés ou des idées de qu'est-ce que c'est le christianisme. Et parfois même nous, en tant que chrétiens, je sais pas. Vous vous rendez compte, parfois on a un peu des idées qui se forgent, et puis parfois on ouvre la Bible et on fait, ah ouais, mais écrit ça dans la Bible, mais moi je pensais ça. Ça vous est déjà arrivé? Si ça ne vous est pas encore arrivé, vous en faites pas, ça va vous arriver. Et c'est vrai que la question qui se pose parfois, c'est quel est le message central de ce beau livre qu'est la Bible? C'est un peu long à lire, hein, de faire le tour. Et c'est vrai que d'habitude, vous avez remarqué, on essaie de faire un peu passage par passage, quasiment verset par verset. Et ce matin, je vous lance un petit défi. On va survoler plusieurs passages clés de la Bible pour avoir une sorte d'idée un peu générale de cette belle frise que Dieu met devant nous, cette belle tapisserie, et pour comprendre un peu le message central, pour peut-être enlever pour certains des préjugés sur le christianisme, sur ce que Dieu dit, sur peut-être comment on peut être sauvé. Parce qu'en fait, certains pourraient dire, mais en fait, ce livre, c'est un livre avec plein de règles à respecter. Certains vont dire, bah, c'est un livre avec plein d'histoires pour les enfants. Et d'autres vont dire, bah, c'est un livre pour les personnes très religieuses, hein, des personnes qui ont une moralité comme ça. Est-ce que c'est ça, la Bible? Non. Et du coup, je vous propose ce voyage qui va parcourir plusieurs milliers d'années. Donc, vous en faites pas. Normalement, ça ne durera pas plusieurs années. On va essayer de prendre quelques passages particuliers. Mais finalement, ça nous révèle. On a besoin de revenir à la centralité du message biblique, du message de l'évangile. On va voir ça sous plusieurs aspects. On va déjà voir que, ben, on a besoin de découvrir Dieu tel qu'il se présente à nous. Et Dieu veut être connu. Dieu veut être connu par toi, veut être connu par notre Église. Et on va parcourir cela par 5 points. Tu es créé pour Dieu. Pas juste par Dieu, mais pour Dieu. Et malheureusement, en fait, à un moment, on est tous séparés de Dieu. Ça s'appelle le péché. On est tous perdus sans Dieu. On va vers la mort. On va vers la destruction. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il veut nous réconcilier avec lui. Amen. Une fois qu'on sait tout ça, bah, on a aussi besoin de répondre à cet appel et on va voir comment on pourra répondre à Dieu. Et donc, bah, si vous avez une Bible, n'hésitez pas à prendre les passages, je vais les dire au fur et à mesure, ça va aussi s'afficher. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, on pourra vous en prêter une. Et si vous n'en avez aucune, on sera très heureux de vous en offrir une. Il suffit juste de faire un petit geste de la main et l'équipe d'accueil vous en donnera une. Donc on commence par créer pour Dieu. Est-ce que ça va pour les diapos? Ok, merci. Donc le premier passage, c'est dans Genèse 1, versets 26 à 31. Oui, Nathanaël, il va y avoir beaucoup de lectures, donc n'hésite pas à prendre même un peu d'avance sur moi au cas où. D'accord? Merci beaucoup. Alors, Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il a fait et il constata que c'était très bon. Alors, la première vérité qu'on trouve finalement dans ces premières lignes de la Bible, lorsque vous l'ouvrez, c'est vraiment les premières pages, ben, c'est que Dieu t'a voulu. Dieu t'a créé, tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu lui-même qui le dit. Alors parfois, il y en a qui s'imaginent que le livre de la Genèse, c'est un livre pour apprendre à créer une nouvelle terre. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a écrit. Il t'a écrit pour te rappeler des vérités essentielles. Dieu t'a créé. Dieu a d'abord créé la lumière, la mer, les montagnes, les animaux, les arbres, les fruits, la vie. Et il a créé finalement cet écrin en sécurité où tout est bienveillant. Dieu a créé un écrin magnifique de verdure où finalement il prend Adam et Ève et il les place dans ce lieu magnifique qu'il a créé pour eux. Et Adam et Ève, finalement, c'est la pièce maîtresse, le chef-d'œuvre final qui se termine lorsque Dieu dit « c'est très bon ». Et Dieu, il les place là, il leur dit « bon, vous faites la sieste et puis je passerai de temps en temps ». Non, qu'est-ce qu'il leur donne de faire ? Garder le jardin, s'occuper du jardin, le cultiver, en faire un endroit encore plus beau, le développer. Et c'est pour ça que Dieu leur donne à la fois l'autorité, la sagesse, l'intelligence, la créativité pour cela. Et il leur donne d'être intendant de ce que Dieu leur confie. Et tu sais quoi, aujourd'hui, tu es encore intendant de ce que Dieu te confie. Que ce soit des dons, que ce soit ton temps. Pourquoi ? Pour l'aimer, pour l'adorer. Et finalement, Dieu dit à Adam et Ève, en fait, vous allez être les rois de cet endroit-là. Je vous délègue le fait de gérer cet endroit-là. Vous pouvez faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et finalement, là, c'est une belle vie. Hein. C'est un job de rêve, un lieu magnifique. Est-ce que vous voudriez de ce job ? Ouais, c'est un bon plan. Hein. Moi, j'aurais accepté. Hein. Et ce qui est beau aussi, c'est que Dieu ne crée pas l'homme parce qu'il a besoin d'eux, mais c'est parce qu'il a envie d'être en relation avec eux. Il a envie d'être ce Dieu qui est là et qui passe dans le jardin, qui discute avec eux, qui découvre qu'est-ce qu'ils vont faire. Il a envie d'être adoré par eux, parce que c'est des personnes qui sont reconnaissantes, qui comprennent que tout ce qu'ils ont leur vient de Dieu. Et on découvre que Dieu nous a créés parce qu'il nous aime, parce qu'il nous voit en relation avec lui, et que finalement on vive pour lui. Que tout ce qu'on fasse, tout ce qu'on dise, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on respire, ça soit pour lui. Et vous savez, je sais pas pour les parents qui ont accueilli des enfants à la maison, souvent sur la fin de la grossesse, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a pas des parents qui ont eu des enfants récemment par hasard ? On prépare la chambre. Et ça, c'est une expédition. Hein. Faut que tout soit prêt avant le dernier mois. Parce qu'à ce moment-là, Nadia, elle m'avait dit, maintenant, ça peut arriver à tout moment. Là, pour les papas, c'est stressant. Alors le papa, du coup, il repeint, il monte le lit, les meubles Ikea, on se fight un peu, hein, parce que bon, on est encore un peu dans le péché. Mais voilà, c'est tout un défi, on met les jouets, on va dans les détails, on accroche les petits papillons, et puis aussi, vous savez, les étoiles là, qui sont phosphorescentes au plafond. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de toutes ces choses-là. Pourquoi ? Pour l'accueillir. Vous aimez cet enfant et vous ne le connaissez pas encore ? Il est encore caché. Et je crois que c'est ce que Dieu a fait d'une certaine façon dans le livre de la Genèse. Il a tout préparé pour t'accueillir et il t'aimait déjà. Et ça, c'est dans Éphésiens, au chapitre 1, que c'est dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, là, il faudra un waouh, merci Seigneur. Avant même la création du monde, tu as décidé de m'aimer, de m'accueillir. Je suis le premier. Et voilà, c'est la reconnaissance. Est-ce que parfois, on peut revenir aux choses simples ? Dieu t'aime depuis toute éternité. Et puis finalement, Dieu a créé ce monde pour t'accueillir. Sans t'avoir vu, sans encore t'avoir tenu dans les bras, il a déjà décidé de t'aimer. Et ce n'est pas tout. On voit que les relations entre les hommes étaient différentes à ce moment-là. On retourne dans Genèse. Genèse chapitre 2, versets 23 et 25. On va découvrir la Bible par la Bible, par les versets, ce que Dieu nous a confié. Et l'homme dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Et là, dans cet écrin, on voit que Adam et Ève vivent la liberté. Ils vivent la beauté de la présence de Dieu. Ils vivent la beauté d'un amour sans jugement, sans honte, sans conflit. Un amour qui se donne, qui se vit pleinement. Et Dieu a des projets magnifiques pour eux, pour ce couple, pour les hommes. Parce que c'est vrai que certains pensent que Dieu, il est là pour nous priver de liberté. C'est ça qui est décrit dans ces passages-là. Non, Dieu désire la liberté. Il désire nous donner le fait de pouvoir profiter de sa présence. Parce que Dieu, il est généreux, il nous aime, il veut être en relation avec nous, il est bienveillant. Et mon ami, si tu es là, si tu vis, c'est parce que Dieu t'a voulu, il t'a désiré, comme ce père qui attendait cet enfant, qui a préparé cette chambre. Dieu dit du bien de toi. Moi, ce qui me parle à chaque fois, c'est Dieu dit, c'est très bon. Dieu t'a créé à l'image de Dieu et c'est le plus beau compliment que tu puisses faire à quelqu'un. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et à chaque étape de la création, Dieu va dire que c'est bon. Dieu va reconnaître que ce qu'il a fait, c'est bon. Et nous, peut-être à chaque jour, on devrait aussi apprendre à dire, c'est bon ce que Dieu fait. Amen. Vous savez, on a une association qui s'appelle l'AFP Création, et en fait, c'est avec ça qu'on fait tout ce qu'on ne peut pas faire avec l'Église pour le culte. Donc, c'est pour tout ce qui est soutien scolaire, de l'aide culturelle, ainsi de suite. Et en fait, on a des bénévoles qui ne sont pas chrétiens qui nous aident, par exemple, à faire le soutien scolaire. Et en fait, à un moment, on a dit, bon, on souhaiterait prier, est-ce que ça vous dérange qu'on prie? Et la dame elle, qui était là, a dit, non, mais surtout, priez. En fait, j'ai remarqué que vous dites du bien des gens. Moi, ça me plaît. Ça pose cette question, est-ce qu'on dit du bien des gens? Est-ce qu'on sait reconnaître dans notre quotidien toutes les petites gestes, tous les petits cadeaux qu'on a? Vous savez, au début d'année, là, j'étais vraiment pas en forme, et j'avais même du mal à respirer, je m'essoufflais, j'étais fatigué. Et à un moment, quand ça commençait à aller mieux et que j'étais moins fatigué juste de respirer, en fait, j'ai apprécié tout à nouveau de respirer. Et je crois que parfois, Dieu permet qu'on ait un peu cette difficulté-là, peut-être c'est pas pour respirer, mais pour tout à nouveau apprécier ce qu'on a, apprécier notre couple, apprécier nos enfants, apprécier notre Église. Est-ce que j'ai appris à donner ma reconnaissance à ce grand Dieu qui m'a créé? Et là, on pourrait dire « happy end », tout est terminé, et en fait, autour de nous, tout va bien. Ah, pas tout à fait, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse, au chapitre 3, il nous est dit cela. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu t'a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Et ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel, Dieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Et peut-être ce matin, Dieu dit à quelqu'un, « Où es-tu? Pourquoi te caches-tu ? » Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Voilà pourquoi il y a le péché qui est rentré dans le monde. Tout bascule, le monde est ébranlé sur la base d'un mensonge. Le serpent, il n'a pas dit Dieu n'existe pas. Il dit un mensonge beaucoup plus subtil. Il dit quoi finalement? Vous serez comme Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Et ça, c'est le premier mensonge de l'histoire. Et aujourd'hui, si on rejette Dieu, c'est parce qu'en fait, on continue à vivre dans ce mensonge. On veut être notre propre Dieu. On se dit, ben, c'est moi qui décide. Pourquoi il y a Dieu qui déciderait pour moi? Et ce qui est d'autant plus triste, c'est, rappelez-vous, Dieu t'a créé à son image. On avait déjà tout. Pourquoi Dieu, il voulait qu'on soit heureux pour toujours dans l'amour, dans la sécurité, sous l'autorité bienveillante de Dieu qui nous explique comment vivre dans sa création. On avait un job de rêve, une vie de rêve, une vie de couple de rêve. Et finalement, tout est bradé. Pourquoi? Un fruit? Un mensonge? D'une autre créature de Dieu? On écoute une créature au lieu d'écouter le Créateur? Et pour autant, c'est tellement présent parmi nous. La prairie est toujours plus verte ailleurs. On a besoin d'arriver à, en tout cas, de comprendre ce mécanisme des mensonges pour pouvoir dire « Non, moi je veux vivre dans la vérité de la parole de Dieu. » Le second mensonge, c'est « Vous ne mourrez absolument pas. » Et mes amis, sans relation avec Dieu, en fait, on meurt à l'intérieur de nous, on se dessèche. C'est peut-être pas instantané, mais en fait, c'est comme, vous voyez, avec la chaleur qu'il y a eu, en fait, l'herbe était verte et au fur et à mesure, en fait, il ne reste que de la paille. Et c'est ce qui arrive dans notre cœur. Adam et Ève avaient tout et ils perdent tout. Ils écoutent un mensonge alors qu'ils étaient aimés de Dieu. Et au lieu de vivre dans la reconnaissance, la dépendance à Dieu, ils deviennent rebelles à Dieu. Ils trahissent Dieu. Ils disent « j'ai pas besoin de Dieu ». Et ça, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. C'est pour ça que Dieu nous appelle. Et même dans nos cœurs, même quand on est chrétien, il y a ce combat qui continue. Et le nier, finalement, c'est rentrer aussi subtilement dans ce mensonge. Alors, l'autre préjugé qui existe, en fait, si ça va mal dans le monde, c'est à cause de la femme, d'accord? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Je vais aller par là, il y a trop de femmes. Bah, c'est à cause de la politique. Si on avait de meilleurs politiciens, tout serait réglé. L'économie, si l'économie fonctionne, tout irait beaucoup mieux. Et le vrai problème, c'est finalement, si tout le monde était éduqué, on n'aurait plus aucun problème. Vous avez déjà entendu ça? Et vous pensez que ça va résoudre vraiment quelque chose? Non, on a besoin de Dieu et Jésus, lui, il est clair. Matthieu, chapitre 15, verset 17. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Bon, lavez-vous quand même les mains. Mais en fait, le problème, il n'est pas sur l'extérieur. Il est de l'intérieur. Et Dieu, il veut travailler à l'intérieur de nous. Il ne veut pas se limiter aux apparences. Et ça nous rappelle que finalement, on peut changer de travail, on peut changer de ville, certains changent de conjoint, on peut changer d'église. Mais en fait, ce cœur, on l'emmène partout où on va. Et c'est ce cœur-là que Dieu veut travailler. Ça fait que le vrai problème de la vie, il n'est pas autour de moi, il est dans mon cœur. Ce n'est pas le cœur du voisin, il a son propre travail à faire dans mon cœur. Et finalement, ça nous montre qu'on est perdu sans Dieu. Au Genèse, chapitre 3, verset 15, ben, il y a une sentence à tout cela. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, dont Dieu parle au serpent et à Ève. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et malgré ces paroles qui sont difficiles, il y a une promesse qui est là. Il y aura une délivrance. La descendance de la femme écrasera la tête du diable, du péché. Et du coup, on l'a vu encore sur la petite série qu'on a fait dans la Genèse, c'est qu'à chaque fois, on s'attend à ce qu'il y ait un homme providentiel qui arrive. Ève était très contente d'avoir Caïn et Abel. Que fait Caïn? Il tue Abel, la descendance d'Ève, à ce moment-là, bah, il ne restait plus rien. Je vous passe les détails de Noé. Il construit une arche, l'humanité doit recommencer, et puis finalement, bah, il se saoule, un de ses fils devient complètement rebelle à Dieu. Abraham, il fait des GPA illicites. Il dit deux fois que sa femme, c'est sa sœur, elle se retrouve deux fois dans la maison d'autres hommes, et ainsi de suite. En fait, même les gars, on se dit, ils ont tenu bon. Même Moïse! Franchement, c'est le gars, moi, je l'admire, hein, parce qu'il s'en est pris plein la tête, mais du début à la fin. Et une fois, il tape sur un rocher, au lieu de lui parler, il n'a pas le droit d'entrer dans le pays promis. Comme quoi, Dieu a des autres attentes avec nous. Et ça nous montre qu'on ben, peut s'attendre à des hommes, on sera toujours déçus. Même si c'est des gars super bien, ou des femmes super bien, en fait, on a besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin du vrai libérateur. Et en fait, quand on regarde dans l'Ancien Testament, c'est comme si on regardait une série TV. D'habitude, on regarde des séries avec des super-héros, par exemple Superman ou MacGyver pour les plus anciens. Qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, ils arrivent à résoudre des trucs impossibles avec pas grand-chose et à chaque fois, ils s'en sortent bien. Dans l'Ancien Testament, c'est pas du tout ça. C'est la série TV qui nous montre tous les losers. Tous ceux qui ont échoué, tous ceux qui ont commencé à faire quelque chose, ils sont arrivés plus ou moins bien à la fin. Mais Dieu a une promesse. Et celle-là, on la trouve dans Ésaïe au chapitre 1. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de graisse, des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, des convocations à vos réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée à vos célébrations. Je déteste vos débuts de mois, vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne Dieu de vous. Mais quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Dieu ne veut pas des cérémonies, il ne veut pas des apparences. Ce que Dieu désire, c'est notre cœur. Et du coup, il y a ce préjugé. Être chrétien, c'est être religieux, faire plein de choses. Mais finalement, on peut être très religieux, faire plein de belles œuvres, plein de belles prières, et être très loin de Dieu. Et ça nous pose cette question, est-ce que je connais une religion, des pratiques religieuses, une façon peut-être de prier, ou est-ce que je connais mon Dieu, mon Créateur? Et du coup, comment être réconcilié avec Dieu? Il y a justement aussi une promesse dans Ésaïe, au chapitre 35. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez vos mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici notre Dieu. Il vient. C'est bizarre. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts. Alors les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joie. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et les ruisseaux dans la plaine aride. Lorsqu'on est loin de Dieu, c'est ce qu'on ressent. Ce désert sec, aride, on a soif, mais on n'arrive pas à se désaltérer. Si vous regardez un peu dehors, c'est le scénario qu'on voit actuellement autour de nous. Et ce qui est particulier, c'est finalement qu'on n'entend pas, on n'arrive pas à se déplacer comme on veut, mais aussi on ne voit pas. Parfois, on peut être devant la gloire de Dieu, devant la vérité que Dieu veut nous donner, et finalement, c'est un peu comme avoir des lunettes, tu veux bien afficher la diapo, s'il te plaît, des lunettes remplies de buée. Est-ce que ceux qui ont des lunettes, est-ce que parfois vous galérez? Ouais. Alors ça va mieux parce qu'ils font des traitements maintenant, mais imaginez, tu as de la buée et elle ne part pas et tu vas visiter le Louvre. Quand tu vas passer de salle en salle pour voir les chefs-d'œuvre, au lieu de voir le chef-d'œuvre, tu vas voir quelque chose qui ressemble un peu à ça. C'est qui sur la photo? Ah, vous êtes trop fort, vous avez reconnu la Joconde. C'est peut-être parce que j'ai dit que c'était le Louvre. Mais finalement, on peut peut-être parfois passer toute notre vie avec des lunettes embuées. Dieu est là, la vérité est là, le salut est là, et on continue à passer à côté, on ne remarque même pas que le chef-d'œuvre est devant nous. Et c'est ça qui est triste. Et c'est ça que Dieu veut enlever. Il veut essuyer nos lunettes ce matin pour qu'on puisse voir sa gloire, entendre sa parole, que son Saint-Esprit puisse nous dire, nous révéler que nous avons tellement besoin de ce grand Dieu qui nous aime. Et ça fait que parfois on peut voir sans comprendre et même pas apprécier ce que nous avons autour de nous. Bon, Dieu nous a tout donné, mais en fait, chaque jour, on oublie d'être reconnaissant. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même vient en personne par Jésus-Christ. Et il veut te donner la vraie vie, la vraie joie, la vraie paix par une personne, Jésus-Christ. Jean, au chapitre 1, versets 9 à 14, nous dit cela. « Cette lumière était la vraie lumière, qui est venue dans le monde et éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni d'une volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Finalement, la Bible nous dit que les sacrifices, toutes ces choses-là, ne donneront pas accès à Dieu. Ce qui donne accès à Dieu, c'est le sacrifice de Dieu lui-même par Jésus. Et c'est vrai que parfois, en fait, on peut être là, semaine après semaine, dans l'Église, et finalement ne pas entendre, ne pas voir, ne pas constater que Dieu lui-même est présent parmi nous et qu'il nous appelle. Il y a une anecdote, si tu peux afficher la photo, s'il te plaît. En fait, il y a le patron de Virgin qui arrive dans son entreprise et il trouve un employé endormi et il prend cette photo à côté de lui. Il a loupé le coche de pouvoir être réveillé au moment où son président directeur général international est à côté de lui. Et parfois, je me dis, bon, comme quoi, il y a toujours des exemples, hein. Est-ce que parfois, on n'est pas un peu comme ça quand Jésus vient nous visiter? On est endormi, on ne remarque même pas qu'il est là. Et pour autant, il a tourné ça, vous voyez le sourire qu'il a, il a dit, si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre business. Il l'a laissé dormir. Et Jésus aussi veut prendre soin de nous, mais je pense qu'il serait content aussi qu'on soit réveillé avec lui. Et ce matin, c'est une invitation à pouvoir peut-être nous réveiller, prendre conscience que Dieu est là. Et là, c'est humoristique. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne se réveillerait jamais et qui ne remarquerait pas que Jésus l'appelle, en fait, la situation serait beaucoup moins marrante si on ne rencontre pas Dieu. C'est-à-dire que dans toute l'éternité qui a à venir, on serait loin de Dieu. On aurait cette frustration de cette photo où Jésus il est à notre côté, on n'a pas pu le rencontrer, on n'a pas pu se réconcilier avec Dieu. Et je souhaite ça à personne. Et ce matin, c'est l'occasion finalement de prendre conscience que Jésus il est là à ton côté et il veut te connaître. C'est pour ça que la croix, ce n'est pas un accident, la venue de Jésus, ce n'est pas un accident. Si tu es ici ce matin et que tu entends ces paroles, ce n'est pas un accident, c'est que Jésus il veut racheter tes fautes. C'est comme une dette impossible à rembourser. Je sais pas, peut-être tu as pris ta voiture et tu as défoncé un Airbus A380. Tu n'arriveras jamais à le rembourser. Mais Jésus lui vient et il te dit, en fait, je vais payer cette dette-là, que toi, tu peux pas, moi, je vais la rembourser. Et il te dit pas, bon, je vais rembourser, puis tu resteras 1%. Jésus va te rembourser. Il va payer ta dette à 100%, jusqu'au dernier centime. Il va tout prendre à son nom. Et c'est ça la croix. C'est que Jésus, il va prendre le fardeau de nos péchés. Toutes les fois où on a désobéi à Dieu, toutes les fois où on a accumulé cette dette de colère devant Dieu, Jésus va dire, moi, je vais prendre cette dette-là et je vais la payer pour toi. Et pour la payer, Jésus a dû monter sur la croix. Il a dû prendre nos fardeaux, il a dû prendre notre honte, notre culpabilité. Cette distance que nous avons avec Dieu, il l'a pris aussi. Et il l'a payé intégralement. Il a porté notre honte, notre culpabilité, notre rébellion à notre place. Et ça, c'est le message de la croix. C'est un Dieu qui t'aime tellement qu'il va souffrir à ta place, qui va mourir à ta place. Mais il va aussi ressusciter. Qui d'entre nous accepterait volontairement d'être torturé pour quelqu'un d'autre? Ce que Jésus a accepté, et ce n'est pas du hasard, il est venu pour cela. En Romains, au chapitre 5, versets 6 à 11, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En fait, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie. Maintenant que nous sommes réconciliés, bien plus nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Comprenez bien que Dieu ne nous aime pas parce qu'on serait bon, qu'on serait gentil ou qu'on aurait fait telle et telle chose. Dieu, il t'aime alors que tu n'as rien pour être aimé. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de t'aimer. Il a décidé de m'aimer. Comme ce père qui ne connaissait pas encore son enfant, il a accepté de l'accueillir, de l'aimer, de prendre soin. Et donc, oui, Dieu n'aime pas seulement les bonnes personnes. Non, Dieu aime aussi les pécheurs et les personnes qui constatent justement qu'elles ne sont pas aussi bonnes qu'elles le souhaiteraient. Dieu sauve ceux qui viennent à lui en disant, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et ce matin, tu peux faire cette prière toute simple. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et ça nous pose cette question, comment est-ce qu'on peut être sauvé, qu'on peut être réconcilié avec Dieu? C'est ça le message central de la Bible. On a compris qu'on avait été créé par Dieu, qu'on a été voulu par Dieu, on a compris qu'on était loin de Dieu, on a compris qu'on ne pouvait rien faire par nous-mêmes pour être réconcilié avec Dieu. On a compris que c'est Jésus qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Mais comment concrètement ressortir de ce lieu en étant réconcilié avec Dieu? Ça passe par la reconnaissance. La vraie reconnaissance, ça ne va pas se limiter à juste des mots, des choses qu'on va répéter. La vraie reconnaissance, en fait, elle va transformer notre vie. Et la vie d'un disciple authentique de Jésus, finalement, une des clés de lecture pour savoir où on en est aujourd'hui dans notre vie chrétienne, c'est est-ce que ma vie, elle est marquée par la reconnaissance à Dieu? Et c'est vrai que parfois, en fait, on veut être des bons chrétiens, et c'est très bien. Mais en fait, parfois, on ne laisse pas Dieu nous transformer complètement. Et parfois, on ressemble à cette chenille. Ça ressemble à un papillon, mais c'est une chenille bricolée. Elle a fait un peu de peinture. Elle a accroché des ailes sur le côté. Si, à ChatGPT, pour l'image. Vous en faites pas, j'ai pas torturé une chenille. Mais parfois, moi, je me rends compte que moi, j'ai envie de ressembler à ce papillon, j'ai envie de ressembler à Jésus. Et puis, du coup, ben, parfois, ça ne marche pas comme je veux. Et puis, du coup, je commence à bricoler un peu. Ça vous est aussi déjà arrivé? C'est bien d'avoir des attentes. Mais en fait, Dieu, lui, veut nous transformer pour qu'on ressemble vraiment à ce papillon qui est complètement transformé par Dieu. Pas par nous, mais par Dieu. Ça veut dire qu'on doit se laisser transformer par Dieu. Et en Jean, chapitre 3, Jésus répondit: en vérité, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le christianisme, ce n'est pas une amélioration de quelqu'un qui n'est pas assez bien. Ce n'est pas pour avoir une vie plus confortable. Ce n'est pas pour devenir un champion. C'est pour naître à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Tout est nouveau. Et c'est pour ça que ben, on a beau aller à l'église peut-être toutes les semaines, on a beau peut-être avoir demandé à se faire baptiser, on a beau vouloir être une bonne personne, on a beau croire que Dieu existe, ça ne suffit pas. On restera cette chenille bricolée. On devient chrétien lorsque Dieu nous fait naître à une nouvelle vie par le Saint-Esprit en nous. Son Saint-Esprit vient vivre en nous et on n'a plus cette question d'apparence, c'est Dieu lui-même qui vient vivre en nous. Et les questions de Jésus qui dit cela, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Et il est d'autant encore plus proche aujourd'hui. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Pour naître de nouveau, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu, il y a des étapes qui sont là et qui nous sont décrites dans la Bible, qu'on a déjà vues en partie, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Et reconnaître que finalement, avec cette cible tellement bonne que Dieu place devant nous, ben on n'y est pas aujourd'hui. Et ça veut dire que pour cela, on a besoin de se repentir, on a besoin de dire, mais en fait, je ne veux plus vivre avec le péché. Je veux le dénoncer, je veux le mettre en lumière, je veux y renoncer, je ne veux pas y revenir. Et je veux demander pardon à Dieu humblement, avec un cœur contrit, et changer de direction. Ce que je faisais avant, je ne veux plus le faire maintenant. Et c'est-à-dire que aussi croire que Jésus nous a sauvés complètement, qu'il a payé intégralement notre dette. Croire que Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Et ça veut aussi dire le proclamer dans notre quotidien. Et le premier pas qu'on peut faire pour cela, c'est aussi par le baptême, en disant devant tout le monde que Jésus, c'est mon Sauveur et mon Seigneur. Et marcher chaque jour, et c'est peut-être ça le plus difficile, chaque jour, laisser transformer par Dieu. Marcher dans la reconnaissance. Et c'est vrai que si on n'expérimente pas ces différentes étapes, y compris ce temps de repentance, si dans notre cheminement chrétien, il n'y a jamais un moment où on s'est mis à genoux pour demander pardon à Dieu, pour changer de cap, il manque quelque chose d'essentiel pour mener une vie chrétienne. Si dans notre quotidien, on ne cherche pas à dire, Seigneur, je veux te ressembler davantage, je veux abandonner mes péchés, il manque quelque chose d'essentiel. Et ça doit nous interroger ce matin. J'invite l'équipe de louange à s'approcher. Et peut-être ce matin, tu es venu et tu as l'impression d'être un peu cette chenille bricolée. Tu aimerais ressembler à ce que Dieu désire pour toi, mais tu as l'impression de ne pas y arriver. Ce matin, c'est peut-être l'occasion de simplement revenir à Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour ma suffisance, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu me transformer moi-même, mais je te prie, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit vienne régner en moi, s'il te plaît. On peut faire cette prière de reconsécration. Aussi, peut-être, ça fait des semaines, des mois ou peut-être des années que vous fréquentez l'Église, semaine après semaine, vous entendez le message de l'Évangile, mais finalement, vous avez remarqué que vous n'avez jamais eu ce temps où vous êtes sincèrement posé devant Dieu en disant, mais j'ai tellement besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés et je vois que c'est ça qui creuse un fossé entre nous et je veux enlever ce fossé. Je reconnais que Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur, que je veux vivre pour toi. C'est l'occasion ce matin de pouvoir se positionner devant Dieu et je vous invite à la prière. Oui, Père, je te remets ce temps qu'on vient de vivre. On a vécu beaucoup de choses pendant ce culte, mais on te prie, s'il te plaît, que tu parles à nos cœurs maintenant, que tu nous révèles où nous en sommes concrètement devant toi. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur? Est-ce qu'il y a cette herbe desséchée? Est-ce qu'il y a la suffisance? Est-ce qu'il y a ton Saint-Esprit qui agit? Seigneur, je te prie vraiment que tu illumines les yeux de nos cœurs pour que nous puissions réellement nous positionner devant toi avec humilité et te demander de transformer nos cœurs pour que nous puissions te ressembler davantage. Vivre totalement pour toi, Seigneur. Alors oui, nous avons nos faiblesses, mais nous voulons avancer par ta grâce, avec la force que tu nous donnes ce matin. Seigneur, viens nous visiter pour cela. Alors, nous venons devant toi et je te prie, s'il te plaît, que peut-être ce soit l'occasion de prendre un tout nouveau départ pour toi, avec toi, pour ta gloire, dans la reconnaissance. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, aussi pour nos amis qui entendent parler de toi, peut-être depuis déjà un certain temps, ou peut-être c'est la première fois, Seigneur. Je te prie que tu te révèles à eux et que vraiment tu leur donnes cette conviction qu'ils ont besoin de toi et que le péché, c'est quelque chose qui nous sépare de toi, Seigneur. Je te prie que dans ce temps, ils puissent vraiment aussi se poser devant toi et te demander pardon, changer d'attitude, changer de cap pour t'honorer toi, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses agir dans nos vies, dans nos pensées, dans notre Église, pour que nous soyons orientés vers toi. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.